Il est 8h, bon matin à tout le monde. Et Louis-André en studio pour nous parler des nouvelles locales et régionales. Ça va bien?
Ça va super bien, merci.
Super. Donc, on part ça avec les détails sur l'ouverture des piscines et des jeux d'eau dans la vallée de la Gatineau.
Oui, effectivement, Francis, là, les familles de la vallée de la Gatineau auraient bien profité d'une baignade avec les chaleurs des derniers jours. Toutefois, il faudra demeurer patient avant de profiter des piscines municipales dans les villes de Maniwaki et de Gracefield. En effet, les installations ne seront disponibles qu'à partir du 24 et 25 juin, respectivement. Selon le maire Réal Rochon, l'ouverture tardive de la piscine de Gracefield s'explique par le fait que le contrat des sauveteurs dans la municipalité n'est effectif qu'à la fin du mois de juin. Du côté de Bouchette, les jeux d'eau sont désormais disponibles au Val-Gatinois depuis cette fin de semaine. Le conseil municipal avait procédé à la fermeture de ce service en raison d'une baisse de la réserve d'eau potable causée par la canicule. Selon les plus récents détails, les heures d'ouverture sont de midi à 19h. Concernant la municipalité d'Aumont, les jeux d'eau sont à disposition du public depuis près d'un mois. CAGA-FM a reçu plusieurs messages d'auditeurs concernant la fermeture des piscines municipales en période de chaleur extrême.
Pour continuer, la COVID-19 a aussi touché l'aspect du maintien des travailleurs, la main-d'œuvre côté avec la pandémie.
Oui, exactement, Francis. Là, oui, l'attraction et le maintien de la main-d'œuvre étrangère au Québec ne sont pas des problématiques qui datent d'hier, mais la COVID-19, bien sûr, comme tu viens de le dire, est venue accentuer celle-ci. Les nombreux départs à la retraite et le manque de main-d'œuvre pour pallier ces postes seraient à l'origine du besoin de recruter des travailleurs étrangers. La fermeture des frontières a causé un obstacle important à ce recrutement. Le Québec peut accueillir 45 000 travailleurs étrangers par année, mais seulement 25 000 ont été en mesure de venir travailler ici dans la dernière année. Au Québec, 150 000 postes sont toujours à combler. Selon le président de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, Daniel Côté, il s'agit d'un enjeu complexe.
Malheureusement, au Québec, on n'a peut-être pas fait assez de bébés dans les 30 dernières années pour combler ces besoins de main-d'œuvre-là qui s'en venaient. Là, il va y avoir une réouverture, mais est-ce que ce sera suffisant? Puis, il y a des programmes gouvernementaux pour soutenir parfois de la robotisation, de l'innovation en entreprise. Il y a plein de corps de métier qui n'ont aucune robotisation qui va pouvoir remplacer un humain si on pense préposé aux bénéficiaires ou si on pense aux gens qui travaillent dans des commerces de proximité. Donc, il faut attirer des travailleurs.
La pandémie a tout de même contribué à faire augmenter le désir des grands espaces. Avec le télétravail, les gens peuvent s'installer en région pour travailler, même si le siège social de l'entreprise se situe en centre urbain. Daniel Côté indique qu'il s'agit d'un aspect intéressant.
Donc, ce type de dossier-là, effectivement, va favoriser une meilleure répartition, je dirais, de la main-d'œuvre sur le territoire. Ça vaut autant pour la main-d'œuvre qui est déjà présente au Québec que pour les nouveaux travailleurs. Et d'autre part, il y a une autre façon aussi qu'on a déjà eu de s'impliquer, là, que les réouvertures des frontières sont peut-être un redevenir possible. L'UMQ a déjà envoyé plusieurs de ses membres dans des délégations pour aller faire du recrutement de main-d'œuvre directement à l'étranger, dans des foires de l'emploi ou des trucs du genre, pour attirer de la main-d'œuvre étrangère au Québec.
L'Union des municipalités du Québec veut s'asseoir avec les deux paliers gouvernementaux pour regarder ce qui pourrait être amélioré dans les programmes pour qu'ils soient plus attractifs. Selon l'UMQ, les élus municipaux sont les plus près de la réalité et pourraient être une référence importante pour les décisions gouvernementales en matière de main-d'œuvre.
Et en terminant, un rappel quand même important de ce qui est de l'ail des bois pour protéger l'espèce.
Oui, exactement. Après de récents événements de braconnage reliés à l'ail des bois dans la vallée de la Gatineau, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques rappelle qu'il s'agit d'une espèce menacée dont le commerce est interdit. Si la récolte est tolérée sous certaines conditions, bien sûr, la cueillette de masse peut rapidement contribuer à son déclin. Dominique Bérère, président de l'organisme Forêt Vive, précise comment s'assurer d'une cueillette responsable.
Faire preuve de patience, c'est-à-dire de ne pas cueillir tout de suite au début parce que le bulbe est très petit, attendre vers la fin. Donc, on a besoin d'en cueillir moins. Puis, ensuite de ça, quand on fait attention, quand on cueille l'ail, on peut voir que entre les deux feuilles, là, pousse une tige florale. Ils disent d'éviter de recueillir ces plants-là parce que c'est des plants reproducteurs. Si on cueille, par exemple, plus que 8 à 10 % d'une talle, on va, à ce moment-là, la population d'ail peut se mettre à décliner.
Comme elle est une des premières plantes à émerger du sol au printemps, ses feuilles emmagasinent des minéraux du sol après la fonte des neiges pour les retransmettre au reste de l'écosystème lorsqu'elles se décomposent par la suite. L'ail des bois joue donc un rôle écologique important pour le maintien de la santé du sol, des érablières notamment. Puisque l'espèce fait partie d'un écosystème interdépendant, les coupes forestières peuvent nuire à son cycle de régénération, comme l'explique M. Bérère.
Une étude qui a été faite à savoir si la coupe forestière pouvait nuire à l'ail des bois. Puis cette étude-là a montré que quand c'est du jardinage, ça ne cause pas de dommages. Mais c'est évident que quand c'est des coupes totales, c'est-à-dire qu'on coupe complet, on rase tout, là, c'est évident que ça va faire du tort à l'ail parce que ça va rajeunir la forêt. Puis c'est une plante qui pousse à l'ombre. Donc si on enlève trop de bois, c'est évident que là, il va s'en aller.
Selon les données recueillies, oui, par le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, seulement 30 sites de la région de la vallée de la Gatineau se trouvent des plants d'ail des bois ont été recensés. Néanmoins, puisque l'espèce ne fait pas l'objet d'un recensement systématique, il est possible que l'espèce y soit un peu plus abondante. Le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques mentionne que les plaintes liées au braconnage ou au commerce de l'ail des bois peuvent être adressées au bureau régional du Centre de contrôle environnemental du Québec, du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques à l'adresse courriel suivante, plainte au pluriel, bien sûr, à commercialenvironnement.gouv.qc.ca.
C'est ce qui fait le tour ce matin, Louis-André. Merci, on se retrouve demain.
Ben oui, hey, bonne émission en passant. Moi, c'est ta première émission à l'antenne de Studio 158 oui. En direct à CAGA FM. Et moi, aujourd'hui, ben, ça souligne ma première année depuis mes débuts à CAGA FM. Oui. Donc, c'est un peu un cercle...
Une double fête.
Ben, c'est ça, le cycle de la vie. C'est comme ça qu'on appelle ça ici, Francis. Donc, ben, félicitations, puis oui, on se retrouve demain.
Merci, félicitations à toi aussi.
Merci beaucoup. Salut, bye.